Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
Jsou v tom organické látky.
To je neuvěřitelné. A co signály?
Na ty zatím neodpovídá.
Třeba je to stanice bez posádky.
Ne, je to loď. Automatická stanice by nebyla tak mohutná.
Je primitivní.
Jim se může zdát primitivní za Ikarie. Nic o nich nevíme.
Už mě si běrajte, slivy. Učit mě smyslu žizní.
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes.
Nous sommes le 13 mars 2018. Bonjour et bienvenue au 53e épisode de 24 quarks secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Nous sommes toujours là.
Oui.
Je suis Nicolas Pessila, c'est à mes côtés Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur iTunes, RZO Web, Balado Québec, Pod Québec. Voilà, on est un peu partout et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com. Au programme aujourd'hui, un film qui nous a été suggéré il y a quelques temps par un auditeur de France, David Rossoni, qui a attiré notre attention, le film tchèque Ikarie XB1, un film de 1963 réalisé par, je m'excuse d'avance pour la prononciation correcte du nom, Jindřich Polak. Jindřich, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà.
Bon, tu le dis très bien, moi, je trouve.
Voilà.
Ouais. Je sais pas, personne ne va nous en tenir rigueur, sauf peut-être évidemment les Tchèques qui nous écoutent.
Voilà. Ou les purs et durs, tu sais, les cinéphiles purs et durs.
Non, c'est pas comme ça que
j'ai dit. J'avoue que ça, c'est du... comment dire, c'est de la cinéphilie d'université, là. Hein? C'est pas comme genre, je connais un peu Kubrick, Bergman, Fellini, ouais. Là. Non, c'est encore une couche en haut de connaissance.
Voilà, donc...
Jindřich Polak.
Ouais. Donc, David, si tu nous écoutes, je ne sais pas si t'es un cinéphile averti. Toi, en tout cas, t'avais l'air de connaître ton truc, donc c'est bien d'être un amoureux de la science-fiction, mais en tout cas, c'était une belle trouvaille.
Une belle découverte.
Hein. Ouais. Est-ce que tu as des petites plugs à faire, toi, avant qu'on démarre ou pas?
Oui.
Ah ben oui, bien sûr. Oui.
J'en ai... Tu me vois venir. T'as vu mon énergie. Alors, je l'ai partagé sur notre page Facebook, le démo de la web-série que je suis en train d'essayer de financer. On est en développement, en financement, c'est-à-dire. Et c'est très chouette. C'est une petite web-série d'horreur et science-fiction, un peu dans le style, je dirais, du film de zombies, Apocalypse, quelque chose du genre. En fait, en gros, il se passe quelque chose et plus personne sur l'île de Montréal est capable de dormir. Alors, c'est l'insomnie totale. Et évidemment, plus le temps avance, plus les gens deviennent fous et bizarres. Je vous invite à aller voir la bande démo. À me passer un petit commentaire sous la bande démo ou directement en m'écrivant sur Facebook sur ce que vous en pensez. On est très fiers de ce petit projet-là et puis on croit que ça va aller loin. Alors voilà.
Ouais. J'ai honte, j'étais tellement la tête dans le montage et dans le jus là, ces derniers temps que j'ai même pas pris le temps d'aller le voir.
Tu l'as pas vu encore?
Non, pas encore. Je voulais prendre un moment puis voir ça.
Ah, c'est deux minutes.
Ouais, il faut que j'aille voir ça quand même.
Mais je vais t'obliger de le voir avant que tu penses.
Ouais, ouais. Premier.
Mais on a des super beaux commentaires, vraiment beau engouement. Cool. 30 000 personnes ont vu la vidéo, si je ne me trompe pas, à date, quand
nice.
Même bien. Puis beaucoup de partages, de commentaires, etc.
C'est bon ça. C'est bon, espérons que ça aille loin.
Donc ça, c'était pour ma grosse plug.
Ta grosse plug, mais une belle, une belle plug. Et moi, j'ai rien de très, très spécial. J'ai juste... remarquer.
J'ai autre chose à dire.
Oui,
mais vas-y, dis ton truc.
Non, vas-y, moi, c'était simplement une petite news que j'ai vu passer dans ces dernières semaines, puis qui m'a fait sourire parce qu'on a fait le film il n'y a pas longtemps. C'est un remake de Fahrenheit 451. V-Movie par HBO qui s'en vient dans le courant de l'année. Un remake avec Michael B. Jordan, qu'on peut voir actuellement dans Black Panther, qui joue le rôle du méchant dans Black Panther, qui est excellent d'ailleurs, en passant. Okay. Qui d'ailleurs, on peut en parler aussi de Black Panther parce qu'il y a une petite dimension un peu... C'est pas science-fiction, mais c'est pas juste un film de super-héros. Il y a tout un aspect très technologie qui est vraiment cool, à part le fait que le film en entier est vraiment bien.
Tout le monde dit c'est
probablement
fan.
Un des meilleurs. Non, c'est probablement un des meilleurs Marvel. C'est clair, c'est clair.
Je l'ai pas vu encore. J'ai...
Ça vaut vraiment le coup d'aller le voir.
Faut que j'y aille.
Ouais. Puis donc c'est avec lui et Michael Shannon. Donc Michael B. Jordan reprend le rôle de Montag et Michael Shannon joue le rôle du méchant entre guillemets. C'est Beatty, il s'appelait le méchant, si je ne me trompe pas.
Ah,
c'est
j'ai ça oublié.
Ils sont gardés. Enfin bref, c'est ce que j'ai lu.
Puis sa femme, c'est qui, on ne sait pas.
Et oui, alors attends, j'avais cette info là sous les yeux. Il y a pas plus tard qu'un instant, il y a Sofia Boutella qu'on commence à voir assez régulièrement maintenant, une actrice française qui commence à faire son chemin à Hollywood, qui joue le rôle de Clarisse. Et puis voilà, il y a même Keir D'Elia qui était l'acteur principal de 2001 qui est dedans.
C'est ah bon?
Étonnant, il est là, tu sais, oui, il joue le rôle d'un historien, je sais pas l'importance de son rôle, mais c'est assez drôle, quoi. Voilà. À part ça, pas de nom particulier, mais voilà.
Moi, ce que je voulais...
Il y a plein de petites... Je sais que je viens de dire quelque chose à propos d'un petit film indépendant de science-fiction qui s'appelle Prospect, qui vient de passer à South by Southwest... Et qui a l'air, donc je viens de lire quelque chose sur Slash Film, je pourrais peut-être mettre un lien dans les show notes sur l'article, mais ça a l'air que c'est assez étonnant comme petit film et cool. Qui utilise son petit budget de manière vraiment intéressante.
Moi, ce que je voulais mentionner, en fait, c'était qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu la mort d'une des grandes personnes de la science-fiction à l'écrit. Je parle de Ursula K. Le Guin. Le gain. Bien dit en français, c'est une Britannique, là, mais son nom, c'est ça. En fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est une des rares femmes auteures de science-fiction qui a commencé à écrire dans les années 60 de la science-fiction et puis qui a écrit, qui a gagné beaucoup de prix. C'est vraiment, elle a vraiment développé un style, un univers. Moi, j'avais lu un de ses livres que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle pas le titre. J'essaie de lire un petit peu de science-fiction, là. Donc, les science-fictions qui ont gagné les Hugo Awards, là, pour me faire une culture. Puis, j'avais lu un de ses livres dans ce contexte-là. Et pourquoi j'en parle, c'est que aucun film n'a jamais été adapté d'un de ses livres. Mmh. Et puis ça, c'est assez étonnant dans le monde dans lequel on vit, où est-ce que il y a un certain machisme dans le domaine du cinéma. Mais bonne chose, preuve que les choses changent. Peut-être enfin un de ses livres va être adapté au cinéma. Donc ça s'en vient. Malheureusement, elle va être morte, donc elle n'aura pas eu la chance de voir ça. Puis il y a aussi une femme qui est en train de faire un documentaire. Il y a un très bel épisode sur le podcast dont j'avais déjà parlé sur l'épisode qui s'appelle, qui parle de, je pense que c'est le dernier épisode d'ailleurs, qui parle de Ursula Le Guin et de cette femme qui fait un documentaire.
C'est quoi le nom du podcast?
Ben, c'est ça que je cherche en ce moment, subtilement. Hein? J'essaie d'avoir l'air de continuer à parler en consultant mon téléphone. Imaginary Worlds, donc monde imaginaire. Donc, traduisez-le en anglais, là, parce que mon accent est vraiment poche quand je parle anglais. Donc, Imaginary Worlds de Eric Molinsky. C'est vraiment un très bon podcast. Je suis sûre que j'en avais déjà parlé.
Il me semble que oui.
Oui, j'en avais déjà parlé. Puis le dernier épisode, c'est ça, il souligne la mort d'Ursula Le Guin. Puis ce documentaire qui est en train de se faire, c'est très intéressant. Et puis, je vous invite à la découvrir. C'est une très bonne auteure de science-fiction.
Cool. Bon, ben, si on n'a plus de plug, on peut rentrer dans le vif du sujet de ce film Jack qui, je pense, va être le dernier film de notre petite série de films de science-fiction non anglophones.
Oui, ben,
avec une petite exception au milieu.
On en avait repéré une exception involontaire.
C'était Fahrenheit,
ouais, je sais.
Mais on en avait prévu d'autres, mais on s'est dit que bon, là,
On va les garder pour plus tard. Parce qu'en fait, ce qu'on trouve difficile, c'est de trouver des invités avec les films. C'est le fun d'avoir des invités qui viennent parler avec nous d'un film. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va garder ces films-là en banque. Puis que quand on va trouver quelqu'un qui pourrait être un invité.
Quand c'est des films trop obscurs, c'est difficile à trouver du monde qui l'a vu.
Moi, je suis sûre qu'on peut trouver quelqu'un pour ces films-là. Oui. C'est juste une question de prendre son temps.
C'est vrai.
Et de forcer quelqu'un à regarder le film en l'attachant puis en le menaçant de mort. C'est une façon. Et j'ai quelques personnes en tête. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Et voilà. Donc, on va... Parlons d'Icarie, par exemple. Ce film Tchèque.
Ouais, alors, Icarie XB1. Ah ben, tout d'abord, un petit résumé pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi ça parle.
Parce que vous l'avez tous vu.
Bah, bien sûr. En 2163, le vaisseau spatial Ikari XB1, ou Ikarié XB1, est en mission à la recherche d'une mystérieuse planète blanche en orbite autour de l'étoile Alpha du Centaure. Si le voyage de l'équipage ne dure que 28 mois, 15 ans auront passé sur Terre au moment où la mission parviendra à destination. Au cours de ce voyage, une quarantaine de scientifiques de tout pays apprennent à vivre ensemble et doivent faire face à quelques péripéties telles que la rencontre avec un appareil spatial du XXe siècle, l'instabilité mentale d'un des passagers ou l'apparition de symptômes liés à une étoile noire radioactive. Voilà, c'était un résumé que j'ai piqué sur Wikipédia.
Très bon résumé. Tout voilà. À fait le film.
Donc ce film, bien sûr, tu ne l'avais jamais vu.
Je ne l'avais jamais vu.
Ni moi non plus, d'ailleurs.
Je ne savais même pas qu'il existait.
Non,
alors c'était une belle
découverte.
Belle découverte. Surtout qu'il semble être un film quand même marquant par rapport à l'histoire de la science-fiction.
Ouais. Hein,
qui s'inscrit tout à fait dans un genre. Quand on pense au Star Trek, quand on pense à 2001, on reconnaît un petit peu ce... Il y a quelque chose qu'on reconnaît là-dedans. Là.
Ouais, vraiment.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nick?
Ben, donc moi aussi, c'était la première fois que je voyais ça. Puis, écoute, j'ai bien aimé ça. J'avais peur de tomber sur un de ces films un peu obscurs, tu sais, de comme il en venait parfois des pays de l'Est, tu sais, dans les années 60. Et en fait, c'était une super bonne surprise. Mm. J'aimais le genre de l'exploration spatiale, tu sais. J'aimais le look du film, déjà, c'est en noir et blanc. Ça me fait toujours plaisir de revoir des vieux films en noir et blanc comme ça. J'aimais la manière dont le film est écrit, monté, joué. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, quoi. Le rythme du film est super intéressant pour un film de cette époque-là. Je trouve ça... je trouve qu'il y a un beau rythme, un beau flow dans les dialogues, tu sais, dans la manière dont la caméra bouge, c'est la manière dont la mise en scène est faite par rapport à la caméra. Enfin, c'est vraiment, je trouve vraiment intéressant, quoi. Les dialogues sont, les décors sont beaux.
Mm-hmm.
Puis il les utilise beaucoup. Tu sens que il aimait vraiment le
vaisseau, l'intérieur du vaisseau.
Ouais, tout l'intérieur du vaisseau.
Ouais, magnifique.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Ces grands décors. T'sais. Bon, ça a été tourné au fameux studio Barrandov, tu sais, à Prague. Ils sont très connus, que je rêve d'aller visiter un jour. Je ne l'ai jamais fait, mais j'en rêve.
Juste visiter Prague, je rêve un jour.
Ouais, déjà visiter Prague, mais en plus visiter ces studios, parce que c'est des studios de renommée. Enfin, je veux dire, il y a plein de grands films qui ont été tournés là-bas. Mm. Vraiment une agréable surprise, quoi. Mm. La seule chose que je lui reproche, enfin, là, je parle de manière très générale, mais c'est le film fini. C'est tout à coup, ça finit.
On n'a pas
parce qu'on est tellement...
pas de conclusion, il n'y a pas de résolution, quoi, en fait.
C'est ouais, que... ou il n'y a pas. Voilà, parce mais qu'on est tellement, a, on est, en on fait... est aussi tellement habitué au modèle américain maintenant, tu sais, avec la grosse fin bombastique, machin, où il y a toujours un espèce de gros truc, oui, puis une résolution, ouais. Qui fait qu'à la fin, ça finit, puis j'étais un peu comme. Oh, ok.
Mais okay, du comparatif fini, à 2001 aussi, qui est exactement pareil. On est d'accord. Quand 2001 finit, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on est supposé avoir compris du film.
Ouais, mais il y a une espèce de montée, un truc de fou à la fin de 2001, là.
Ouais.
C'est quand ça part dans ce délire psychédélique.
Ouais, je comprends. Il y a comme une troisième il y a un troisième acte qui est complètement délirant.
Ouais, il y a une espèce de truc complètement fou à la fin de 2001. Il y a comme une espèce de montée, ce qui se termine. Mais alors que là, donc, t'as l'histoire de cette exploration, puis il se passe. Deux, trois, quatre choses. Enfin, trois péripéties, ouais. Ouais, c'est ça. Trois péripéties principales, là. Puis après ça, c'est
tout
fini.
Va bien. C'est fini.
Après ça,
c'est réglé.
Ils arrivent, puis c'est fini.
Moi, j'avais le feeling, c'est comme genre. J'avais le feeling d'un épisode de Star Trek là, qui finissait, là, puis qu'on allait comme continuer après.
Ouais, t'as envie qu'il y ait
qu'elle allait se passer, qu'on n'allait pas les laisser.
Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant, du coup, c'est que dans ce film, en fait, tu t'attaches au personnage, finalement. Tu t'intéresses au personnage.
Ils sont multiples, hein. Il y a beaucoup de personnages.
Puis,
rare, ça. D'habitude, on va suivre un ou deux personnages, mais là, ils nous mettent beaucoup, beaucoup de personnages.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'était cool. J'aime bien comme le je sais pas si on peut dire que c'est du world building, là, dans ce cas-là, mais comme il nous dépeint un peu cette espèce de mini société, là, avec ces 40 personnes
dans
le vaisseau, là. Ouais,
c'est un petit village.
Un petit village, ouais.
Ouais.
Qui évoluent ensemble pendant deux ans et demi, là, un truc comme ça.
C'était pas...
28 mois.
Ouais, ouais. Ben c'est ça, c'est... Ouais.
Un peu plus de deux ans.
C'est un peu plus que deux ans.
Puis, je trouve intéressant, tu sais, voir leur interaction.
Ça se passe assez bien, on sent qu'ils sont évolués comme personnes. On n'est pas dans les clichés là, des films de science-fiction où est-ce que on part dans l'espace puis on s'entretue parce que il y a des défis, là, on est d'accord, mais il y a comme une on sent qu'il y a une harmonie. Puis, tu sais, des trucs intéressants, c'est qu'ils sont tous partis comme en couple. Souvent, dans les films de science-fiction, c'est comme plusieurs gars avec une pauvre fille tout seul, là. Tu sais, dans le cliché, là, des vieux films des années 60. Mais là, c'est vraiment à peu près... On a le feeling que c'est 50-50, là, sur ce vaisseau-là.
Puis, il n'y a pas de méchants. Ils doivent surmonter certains obstacles. Et même quand on arrive au moment où il y en a l'un d'eux qui perd la tête, là, puis qui commence à menacer...
Il est atteint d'un trouble.
Mais il ne cherche pas à l'éliminer comme ça se ferait dans un film aujourd'hui. C'est genre, oh, il est devenu fou, il faut l'abattre. Tu sais, dans les films américains, ça devient le gros truc. Puis il est sujet à grosse scène d'action et tout ça. Mais là, non. Il cherche à l'aider, tu sais. Il cherche à l'aider, à le soigner.
Je pense que tu es un petit peu méchant parce que si on prend le mythe de Star Trek, dans Star Trek,
ouais, okay, d'accord.
On essaierait de l'aider parce que c'est un crewman.
Ok, d'accord.
Ça fait partie, je pense. C'est parce que
Là, en fait, tu sais à quoi je pense. Je pense à un truc comme Event Horizon, par exemple. Bon, ça, c'est un film d'horreur. C'est-à-dire, c'est un film de science-fiction, mais qui verse dans l'horreur. Là où ils deviennent tous fous, puis ils s'entretuent.
C'est un autre truc. Mais justement, c'est ça que je trouve bien avec Ikari. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de Star Trek. Ouais. Pas juste parce que je suis en train de faire un marathon de Star Trek puis de réécouter toutes les Star Trek que j'ai jamais vu, ceux que j'ai pas vu puis ceux que j'ai jamais vu.
Toutes les séries Star Trek possibles,
imaginables. Oui, vraiment, là, fan de Star Trek, Netflix est votre ami ou votre ennemi, selon le point de vue et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Mais du coup, dans la mythologie de Star Trek, c'est vraiment l'idée que l'être humain a atteint, tu sais, comme évolue comme espèce. Je me suis tapé les Enterprise qui se veut les débuts de Star Trek, puis il y a tout ce conflit-là avec les Vulcains qui arrivent, puis les êtres humains qui se sentent frustrés des Vulcains qui les aident pas, les Vulcains qui appliquent une sorte de Prime Directive, puis on voit l'évolution de l'être humain comme en se disant ben on va devenir meilleur, on va participer à une sorte de l'idée qu'on sera plus raciste, on sera plus il y aura plus d'inégalité, etc. Donc dans ce film là c'est, je pense, le même principe. Ça se passe dans un futur, là, on n'est pas en 2001, on est en 2148, je pense. Il me semble que c'est dans un futur.
Dans celui-là, dans Ikari, 2163.
Oui, c'est ça, 2163, pour être exact. Et donc, on est dans le futur, puis les êtres humains, ils ont comme transcendé ces petites guéguerres-là, comme dans Star Trek, tu sais. Donc, c'est ce type de science-fiction, c'est une science-fiction optimiste qui veut que l'être humain ne va pas rester un animal. Hein? Ouais. On va grandir... humainement, tu sais, comme d'un point de vue humaniste, peut-être d'un point de vue spirituel aussi, dépendant comment tu veux le présenter, mais on va évoluer. On va pas rester des belliqueux, guerriers, etc. Ça fait du bien voir un film de même en 2018 avec l'Amérique de Donald Trump.
Ouais.
Parce qu'on se dit, ça nous change.
Ouais. Bon, en même temps, c'est un film très blanc. Hein. Je dirais, voilà.
Oui, mais bon, c'est en Tchécoslovaquie que ça a été fait. On s'entend qu'il ne faut pas... à un moment donné, quand tu regardes un film japonais, des Japonais...
Ils sont tous japonais. Mais c'est fou, quand même.
je leur en tiendrai pas trop rigueur.
Je plaisante.
Peut-être que tu n'as pas tort, parce qu'il n'y avait peut-être pas une vision... Mais tu sais, justement, ça, c'est un des trucs avec Star Trek que... Au départ, il y avait tout un conflit. Il y avait beaucoup de personnages multi-ethniques dans la série originale, ce qui était révolutionnaire. Il était supposé avoir une femme médecin, mais là, c'était trop. Hein? Parce que là, il y avait déjà un extraterrestre qui représente une autre race.
Une autre race, oui.
Hein?
Ouais.
Et puis, c'est drôle, on fait comme un petit sidekick qu'on parle de Star Trek en parlant d'Ikari.
Il y a un lien clair. Quand tu vois Ikari, il y a un lien. T'as l'impression de voir un épisode de Star Trek quelque part, tu sais.
Plusieurs épisodes. Parce que là, c'est drôle parce que j'écoutais l'épisode de Star Trek où le capitaine Kirk est... Et comme séparé en deux, c'est-à-dire il y a son chantier, il y a son lui, parce qu'il passait à travers le transporteur, téléporteur, c'est ça. Puis il est revenu, mais deux T'sais, donc, il est revenu, lui, gentil, puis lui, méchant. Puis le méchant, il fait du grabuge, un peu comme le personnage qu'on voyait dans Icarie. Mm-hmm. Donc, je repensais à ça, cette espèce de dialogue sur un vaisseau spatial. Il y a comme un être maléfique, là, tu sais, qui peut tout bousiller, parce que c'est un petit peu ça.
Moi, ça me fait penser à un épisode de Rick and Morty où il y a... Il y a la partie toxique de Rick qui est extraite de son corps puis qui fout la merde.
Mais c'est
extraordinaire.
C'est un peu ça, mais tu sais, ouais. En écoutant ce Star Trek-là, je trouvais ça un peu drôle, mais c'était, en même temps, c'était bon. En même temps, je me disais, c'est pour ça que j'aime Star Trek, c'est qu'il faisait des choses comme ça. Ouais, tu sais, ouais. C'était très, très créatif. Et donc, oui, Carrie, il y a un truc avec Star Trek. Puis pour en revenir à la diversité, ben, c'est ça, c'est comme... Star Trek, c'est en 66 aux États-Unis. Ça, c'est 63.
Ah, oh, c'est ça, c'est 66, je n'avais pas vu.
Ouais, 66 aux États-Unis. Tandis que 63, ça, c'est 63 en Tchécoslovaquie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en Tchécoslovaquie, ils étaient très. Je ne sais pas si c'est du racisme ou c'est juste une question que.
Est-ce que c'était une société très mixée ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'en général, plus tu te dirigeais vers l'Est, moins c'était mixé. Voilà. En tout cas. Ben. C'est pas vrai, il y a eu des influences qui venaient de l'Est, c'est du Far East, quoi.
Ouais, mais ça, c'est en Russie.
Ça, c'est plutôt en Russie, ouais.
Ça, c'est plus en Russie. Ça, c'est vraiment très européen. Mais ça n'enlève pas qu'effectivement, on aurait pu se dire que si c'est la première mission spatiale de la planète qui s'en va, ben, il aurait dû avoir des représentants de tous les peuples.
Ouais.
Ou peut-être que pour qu'il y ait cette espèce de cohésion sociale-là, c'est pas une bonne idée non plus de mélanger plein de cultures.
Peut-être.
Mais là, c'est moi qui est raciste de dire ça. Je manque d'espoir. Parce que Star Trek m'a prouvé le contraire.
Ouais.
Parce qu'il y a Mr. Zulu, il y a voyons, celle qui fait les communications, puis il y a Scotty.
Je ne sais plus. Bref, ça m'échappe.
Il y a Scotty qui est écossais, puis il y en a un qui est russe. Donc, il y a quand même une belle palette. Chekhov, c'est ça? Il y a comme une belle palette de gens sur ce vaisseau-là. Donc, ça serait peut-être une évolution qui manquait dans Icarie.
Ouais. À l'inverse, dans Icarie, quand il reçoit un signal d'un vaisseau abandonné, un signal de détresse vers lequel il se dirige, il découvre un vaisseau du 20e siècle.
Ah oui, ça, c'est bon, ça.
Ça, c'est très bon. Et quand ils vont l'inspecter, quand ils vont voir ce qu'il y a quelqu'un, survivant, quelque chose et tout, ils découvrent, en fait, ce qui ressemble à comme une espèce de vaisseau casino, finalement, là, où ils sentent qu'il y a eu du jeu, de la débauche, tu sais, mais vraiment tous les symboles du capitalisme de l'époque, tu sais. C'est vraiment drôle de voir le regard qu'ils posaient sur les pays de l'Ouest, en fait, tu sais,
ben
sur les sociétés occidentales, enfin, ouais, les sociétés capitalistes.
Parce que c'est ça, c'est comme...
Et ils sont tous morts.
Ils se sont tous...
Ils
ont été tués par le capitaine qui essayait de survivre parce qu'il manquait d'air, quelque chose comme
un
ça.
Un truc comme ça, ouais.
Si j'ai bien compris, c'est qu'il a tué tout le monde pour avoir une plus grande chance de survie.
Voilà.
En même temps, c'est logique comme décision, right? Puisqu'on va mourir anyway. Mais il va mourir anyway, donc il aurait peut-être été aussi bien de jouer au casino avec ses amis.
Peut-être.
Donc tu sais que tu veux pas être dans un vaisseau spatial avec moi. Ouais. Aux commandes.
Donc, chose intéressante par rapport à cette scène, en fait, c'est qu'il y a eu, quelques années après la sortie du film en Tchécoslovaquie, il y a eu une version américaine qui a été faite.
Une sortie américaine.
Une sortie américaine. Et pour la sortie américaine, donc, ils ont changé le titre. Le titre, c'était plus Icarie ou Icarus XB1. C'était Voyage to the End of the, to the End of the Universe, un truc comme ça.
Mm-hmm. Ce qui est ridicule, mais bon, continue.
Ce qui est ridicule, ouais. Et le film a été écourté, notamment parce qu'ils ont supprimé cette scène de la découverte du vaisseau du XXe siècle, plein de vilains capitalistes. Comme par hasard. Alors, il y a eu ça, et puis la fin qu'ils ont changée. Puisque donc, dans ce film-là, à la fin, ils y arrivent, à Alpha du Centaure.
Oui.
Ils arrivent à la fameuse planète blanche.
Qui semble être habitée, qui semble être...
Parce qu'il y a
quelqu'un de bienveillant qui protège leur vaisseau contre les radiations de la planète noire.
L'espèce de planète noire qu'ils rencontrent.
Qui les a rendus malades.
Ouais. Donc, dans la version américaine... Enfin, c'est pas qu'ils ont changé la fin, mais ils l'ont remonté ou je sais pas quelle petite astuce ils ont faite. Peut-être qu'ils ont changé la traduction, j'en sais rien. Pour faire comprendre qu'en fait, ils sont repartis en direction de la Terre. C'est une fin, finalement, qui est un peu réminiscente de la planète des singes. C'est dans le même genre, dans la planète des singes.
Mmh.
Donc, ils retournent sur Terre, mais ils arrivent, évidemment, quoi, 15 ans plus tard ou plus, puisque, évidemment, ils font deux fois le trajet.
Mmh.
Et voilà, puis évidemment, il s'est passé, Dieu sait quoi, une guerre, une catastrophe, je sais pas quoi, enfin bref.
C'est vraiment différent de la fin.
C'est vraiment différent de la fin, ouais, qui est finalement très optimiste, quoi, de ce film-là.
Oui, parce qu'il y a une excitation, ils ont réussi leur mission, puis là, ils sont entre les mains de gens qui sont bien, puis là, on voit des images de cette planète-là, que c'est un peu... Ça donne l'impression d'une planète habitée, ou comme qu'il y a des choses à découvrir. Puis il y a la scène aussi... puisqu'on parle de la fin, c'est que ça se termine aussi par une naissance, par un bébé.
Oui,
puis moi, j'ai pas arrêté de penser à 2001. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est comme... Ouais. 2001, ça se termine par une espèce de gros fœtus, tu sais. Mais il y avait comme cette image-là du bébé, qui était le symbole de la vie, du positivisme. Tous les membres de l'équipage, quand le bébé naît, ils se précipitent pour le voir, tu sais. C'est comme une... Non, c'est ça, c'était joli, ça.
Eh bien, l'histoire du bébé, ça fait partie des coupes qui ont été faites dans la version américaine aussi.
Ils ont coupé le bébé.
Ils ont coupé l'histoire de la naissance du bébé.
Ben voyons.
Et ouais. Et oui, et tout le fait que le vaisseau a été protégé par la planète blanche, tout ça, ça a été... voilà.
Bon, il y a quelqu'un qui avait décidé qu'il était un plus grand artiste.
Ouais, hein. Mais c'est fou parce que finalement, t'enlèves plein de choses qui rendent ce film vraiment intéressant, qui rendent ce film...
Mais c'est juste ridicule de faire ça.
Ouais, complètement.
Mais ça, c'est les années 60. Puis heureusement, nous, on a pu voir le film dans sa version originale.
Ouais, c'est ça. Il a été réédité pas mal de temps plus tard dans sa version originale. Puis c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il a été colorisé aussi par les Américains ou un truc du genre par la suite. Mais, enfin bref.
Quand même mentionner quelque chose, que ce film-là est tiré d'un livre. Et puis le livre comme tel avait été censuré par les autorités russes pour dépeindre un portrait beaucoup plus positif du communisme. Donc, c'est une idée du communisme du futur, tu sais. Et donc, l'auteur du livre qui est, je vais l'avoir, Stanislas Lem, un auteur polonais, paraît-il connu, moi je le connais pas, ma culture. Le nom du livre s'appelle « The Magellan Cloud ». Okay. Au bloc Magellana. Donc, il a ressorti une version de son livre, pas censuré, après la chute, je crois, du bloc.
Après la chute du mur.
Après la chute du mur. Donc, une version complète a été publiée dans les années 90, dans la Pologne post-communiste. Donc, en même temps, ça va dans les deux sens, hein? Tu sais, je veux dire, oui, les Américains ont pris ça.
C'est la Pologne, tu veux dire?
Ah non, c'est lui, c'est un Polonais.
C'est un Polonais.
Oui, c'est un Polonais. Mais ça a servi de base au film tchèque, mais c'est un Polonais.
OK.
Tu sais, la Pologne, la Tchécoslovaquie, à l'époque... Non, pareil.
C'est tout le même truc.
Dans le même coin.
Excusez-nous, là, on est un peu... On n'a rien bu pourtant.
Kombucha.
Oui, on est au kombucha ce soir.
Mais bon, ça doit être un petit peu. mais donc c'est ça va dans les deux sens. D'un côté, les Américains, ils prennent le film puis ils l'arrangent pour enlever leur côté. Puis d'un autre côté, l'auteur même de cette histoire-là s'est fait forcer la main pour rendre ça plus joli. De preuve que c'était une époque où est-ce que les gouvernements nous disaient quoi penser puis comment l'art devait... être présenté, tu sais. Mm-hmm. C'était très fort. Ouais. Je ne sais pas si aujourd'hui on est en dehors de cette influence-là, mais...
Disons qu'il y a une influence qui... Il y a une influence qui se fait, mais de manière différente, peut-être pas directement sur l'art, comme ça. L'art, en fait, permet plutôt d'exprimer des choses. Ça reste un peu le médium dans lequel le monde s'exprime, a priori le plus librement. Bah. Mais les gouvernements contrôlent d'une autre manière.
Je suppose.
On va pas faire de la politique, là, mais.
Je suppose. La politique, c'est une machine complexe, puis il y a beaucoup d'influence.
Maintenant, c'est le contrôle de l'information, des choses comme ça.
Oui, le contrôle. Mais même avec l'Internet, c'est qu'on a libéré l'information, mais là, il y en a trop. Mm-hmm. Puis c'est une information qui est d'une qualité douteuse, des fois, là, parce que c'est ça le problème. C'est un des autres problèmes, c'est que tu vois naître plein de gens qui pensent. Mais on est dans. Bon. J'ai l'impression que c'est pas la même chose qu'à l'époque. T'sais, on ne connaît plus ça, ce sentiment de... En tout cas, pas au Canada. Là. Cette peur d'une censure, ce besoin de se conformer. Je pense qu'on réfléchit beaucoup, on se confronte beaucoup. Mm-hmm. Les gens argumentent beaucoup. Il y a beaucoup de débats tu sais, puis de les gens se sentent libres de dire leur opinion. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toujours, il y aura toujours dans une société une façon de penser, puis peut-être qu'on a une pensée plus libérale. Moi, je connais des gens qui ont des pensées de droite, et que quand ils parlent, on est tous comme « Non! C'est aberrant ce que tu dis! » Tu sais? Puis bon, on pense qu'on a raison, on pense qu'on est dans le droit chemin, puis que c'est eux les méchants, tu sais?
Ouais.
Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est ça, est-ce qu'on est en train de... On est, en n'écoutant pas quelqu'un et en ne le laissant pas s'exprimer, on est peut-être en train de se dépeindre d'une utopie ou de se raconter un mensonge sur notre société. Puis c'est un petit peu ça, en fait, qui se passe quand un gouvernement communiste qui dit à notre ami Stanislas Lem, ben non, tu peux pas dire des choses méchantes sur le communisme dans ton livre. Puis là, il efface une réalité, tu sais.
Mm-hmm.
Donc c'est un peu ça.
Ouais, parce que finalement, quand tu vois le film, ça c'est vraiment la peinture d'une espèce d'un microcosme parfait, quoi. C'est genre tout le monde s'entend, tout le monde prend des douches avec tout le monde, tout le monde.
Ben là, pas comme tu le sous-entends.
Non. J'exagère. Non, mais il y a un truc très
collégial.
Très cool, très collégial. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment le mot. Ouais. Et puis.
Et quand ils vont au gym s'entraîner.
Exact, ouais.
La danse, oh mon Dieu, cette scène-là est magnifique.
Ah oui.
Ça, c'est une belle
excellent.
Scène.
Excellent. En plus, avec une musique vraiment particulière, là.
Ouais, un peu inventée, qui rappelle le Charleston, là, comme la façon de danser, mais différente.
Ouais,
pas la musique, je parle de la façon de danser, ça. Ah, c'était un beau moment, ça, du film, ça. Puis d'ailleurs, c'est le moment que j'ai trouvé que ça commençait à décoller, parce que je commençais à être un petit peu tannée de l'exposition. C'est un peu long.
C'est long, c'est vrai.
Ça serait...
Ouais, on n'échappe pas quand même.
Pour moi, c'était le défaut du film, c'est que ça prenait trop de temps. Mais ça, c'est parce qu'on est habitué aujourd'hui, là, des films. Tu sais, nous, ça va, hein, vaisseau spatial, salle de contrôle, puis les endroits pour le holodeck, puis la place pour manger. Là, on a compris, là. T'as pas besoin de tout nous montrer en détail.
Non, mais justement, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi j'ai pas trouvé que le toute la technologie, que tout le, tu sais, le jargon, tout ça, machin, ils en font pas un plat, tu sais, ils cherchent pas à t'expliquer de quoi.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, on a compris qu'aujourd'hui, quand tu présentes un vaisseau spatial, t'as pas le besoin de le présenter pendant longtemps, là.
Okay.
L'action entre tout de suite, tu sais.
Ouais.
Tu sais tout de suite que t'es sur un vaisseau spatial, puis que t'as... Il y a des lieux, là. Il y a le centre de contrôle, il y a le... Eux autres, il y avait un gym, il y avait une salle commune.
Mais j'ai pas trouvé que c'était une longue présentation de chaque endroit. Pour moi,
ça a duré une demi-heure, là.
OK, mais c'était pas... Je veux dire, c'est plutôt l'interaction entre les gens qui est le propos dans ces scènes. C'est pas tant...
Oui. C'est ça présente les personnages.
Voilà, c'est pas tant le lieu, c'est pas tant le hardware. Là. Ça, ils en font même pas de cas. C'est ça que j'ai bien aimé d'ailleurs.
Mm.
C'est que j'ai trouvé très moderne comme approche, dans le sens où on cherche même pas à impressionner le monde avec du jargon et des trucs et t'expliquer à quoi sert telle machine ou tel truc. On s'en fout. T'sais. Non, on parle des gens. Puis c'est ça qui fait que le film est intéressant, c'est que tu t'intéresses
oui,
au personnage.
Il y a la scène où est-ce qu'il y en a un qui parle avec sa femme qui est restée sur Terre,
ouais.
qui décide de pas venir. Ça, c'est beau, c'est touchant.
C'est très beau,
oui. Ouais. Il y a aussi le côté que j'aime bien, qu'on voit jamais dans les films de science-fiction de nos jours, c'est vraiment l'idée que si tu voyages à la vitesse de la lumière pendant une certaine période, ben quand tu vas revenir, il va s'être passé 15 ans. T'sais, c'est la fameuse loi de la relativité de Einstein. Dans les science-fiction... Comme, encore là, je pense à Star Trek, mais ça serait vrai pour Star Wars, ça serait vrai pour toutes les space opera. On dirait qu'ils ont que la loi de la relativité n'existe pas, que ce principe-là n'existe pas, parce qu'ils partent, poum, puis ils reviennent.
Ouais,
puis, puis c'est comme...
Ils sont en vitesse lumière, puis ci, puis ça, puis tout puis est ça, comme
ouais.
ça, on push over
the button. Il n'y a pas comme 25 ans que c'est passé, là, ils vont aller reprendre un café avec leur pote qui n'a pas vieilli et tout, tu sais. Puis il y avait dans Hyperion, que j'ai aussi sûrement déjà parlé, parce que c'est mon livre préféré, régulièrement. D'ailleurs, on va pouvoir le remettre dans les notes. Il y a un des épisodes, justement, c'est très beau là-dessus, parce que c'est le personnage qui fait régulièrement des voyages, puis qui, lui, ne vieillit pas, mais que la femme qu'il aime, finalement, elle vieillit. Donc, il la rencontre très jeune, quand ils sont enfants. Et puis, plus ça va, plus il y a une différence. À chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a des grosses différences d'âge qui s'installent, t'sais.
T'as-tu vu Interstellar, toi?
Oui, j'ai vu Interstellar.
OK.
Mais Interstellar, j'avais pas aimé la fin du tout. mais on pourra en reparler, là. Mais j'avais
ouais, ça pourrait être intéressant de
le faire. J'avais vraiment aimé le film jusqu'à la dernière scène, où est-ce que là, j'étais...
On va pas spoiler ça, là, mais... Ouais.
Ouais, j'étais pas impressionnée.
Ah, c'était un film extrêmement ambitieux.
Ouais, mais c'est dommage. Pour moi, c'est dommage, parce que c'est un...
Il y a quelque chose qui ne marche pas, ouais. Il y a des choses magnifiques, puis des choses qui ne marchent pas.
Ouais. Mais non, mais c'est ça. C'est un film qui a été... Il y a beaucoup de gens qui aiment Interstellar et beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais ouais. Par rapport au voyage, là, si je ne me trompe pas, dans Interstellar, ils se rendent à Jupiter. Ils ne vont pas si loin que ça. Parce que ça, c'est la distance aussi qui fait la différence. Ouais. Parce que quand tu pars à une distance très loin, tu approches de la vitesse de la lumière. Puis c'est ça qui fait en sorte que le temps se rétrécit.
Ouais, ouais.
C'est pour ça.
Oui, mais il y a l'histoire du passage à travers le trou noir. Et puis, il se retrouve sur cette planète où à chaque minute, il passe je ne sais plus combien d'années ou combien de trucs. Tu te rappelles?
Oui, quelque chose.
Tu te rappelles cette scène-là?
Ben là, il y a le trou noir. Oui, mais ça, c'est la fin, ça, justement.
Je m'en rappelle plus très bien, là, mais en tout cas, je sais que ça joue beaucoup avec le temps, justement, là, la dilatation du temps. Là. Enfin, en tout cas, le rapport entre...
C'est vrai, quand il va partir.
C'est le temps sur telle planète par rapport au temps terrestre, tu sais. Et puis, les conséquences, enfin bref.
Donc, oui, peut-être que c'est plus loin que Jupiter, en fait, je me trompe. Probablement qu'il va à une autre étoile, effectivement. Parce qu'il allait partir, puis il allait pas revenir, là. Tu sais, il partait, puis...
Ouais.
S'il revenait, les gens étaient vieux. Là. C'est ça. Puis c'est ça qui se passe, en fait.
Ouais. OK, spoilers pour Interstellar. qui est quand même sorti il y a pas mal de temps. Donc,
Vous auriez dû le voir, de toute façon. C'est de votre faute. Là. Dit celle qui a quand même des trous dans les films de science-fiction.
Oui. Mais non, vraiment, donc pour revenir, on parlait de quoi? Oui, de la scène de danse, la scène du bal qui est vraiment cool.
Qui est interrompue parce qu'il trouve le... Ce fameux vaisseau spatial-là, ouais. Qu'ils ne savent pas. Hein. Pour eux, c'est peut-être un truc extraterrestre. Pour ce qu'ils en savent, ils ne le reconnaissent
pas. Je crois qu'ils reçoivent comme un signal de détresse ou quelque chose comme ça. Enfin, ils reçoivent un signal qui fait qu'ils vont investiguer.
Ils
vont voir ce que c'est.
Ouais. Puis ils arrêtent de danser. Du coup, tout le monde part.
Tout le monde part chacun à son poste. Ouais.
C'était bon, ça.
Mais j'aime bien ce côté aussi où, justement... tous ces gens sont là pour une raison. Ils ont quelque chose à faire sur ce vaisseau, tu sais. Ils sont pas là juste pour attendre que les 28 mois passent puis se prélasser, tu sais.
Ouais, les femmes ont des rôles aussi.
Ouais, tout le monde a des rôles. Oui, d'ailleurs, oui, on en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, là, mais le rôle des femmes dans ce film est super intéressant, je trouve.
Oui, et
c'est quelque chose qui... Ben, ça tombe à pic avec ce qui se passe en ce moment autour de nous, mais...
Je te dirais que c'est compte tenu de l'époque puis des films qui se faisaient à l'époque...
Ouais.
C'est vraiment, elles ont une place importante, puis elles semblent pas être là. Bon, déjà, quand tu regardes les femmes, c'est des femmes, hein?
Ouais.
Ça, c'est la première chose qui frappe.
Ouais.
C'est que c'est pas des petites filles de 22 ans, là, tu sais, ou des femmes de 30 ans qui font plein de chirurgies plastiques pour avoir l'air 10 ans plus jeune que leur âge.
C'est des vraies femmes.
C'est des femmes. Là, t'es comme genre, puis c'est des hommes qui sont venus avec leurs femmes. Puis il n'y a pas une idée nécessairement de progéniture, là, parce qu'ils ne sont pas jeunes, là. C'est pas avec, ils ne vont pas faire des bébés nécessairement. S'il y en a une qui a un bébé, s'il y en a qui sont jeunes, mais il n'y a pas cette espèce de genre. C'est comme, il y a toutes sortes de styles de femmes, en fait.
Ouais, ouais,
y a des femmes jeunes, là, je ne voulais pas dire. Il y en a deux, d'ailleurs. Puis ça, c'est intéressant. C'est le côté aussi, c'est ça, qu'elles ont des postes, là, genre elles s'occupent, tu sais pas ce qu'elles font exactement, mais elles sont assez aux commandes, elles font des trucs, tu sais, puis il y en a une qui fait partie des têtes grises, là, si tu veux, là, qui donne son opinion, puis avec qui, tu sais, donc ça reste plus de gars que de femmes qui sont comme aux commandes, tu sais, parce que ça a l'air que c'est inimaginable.
D'avoir une femme aux commandes.
Non, mais il y aurait Voyager de Star Trek qui aurait changé ça, là, qu'il faut que je vois, là, puis d'ailleurs, ça, c'est... on en reparlera.
Dans ta liste.
Mais c'est dans la liste Star Trek, là, ça s'en vient. Là, je l'ai pas vu. Je l'avais vu à l'époque, mais pas revu dans mon marathon. Et ça m'a plu. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais en même temps, c'était peut-être un petit peu typique de la société communiste qui se voulait une société beaucoup plus égalitaire à la base. Ouais, il y avait. Je me rappelle quand je. Dans les années 80, c'était ce feeling-là que les Russes, OK, oui, ils étaient communistes puis ils avaient tort, mais il y avait comme une plus grande égalité homme-femme.
Ouais.
Tu sais, c'était un truc qu'on... C'est le feeling qu'on avait, tu sais. Il n'y avait pas de cette notion-là de séparation des sexes.
C'est vraiment flagrant, en film. Je trouve que c'est bien... C'est rafraîchissant, en fait, de voir quelque chose comme ça. Surtout pour un film de cette époque-là, comme tu dis. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que juste avant de commencer à enregistrer, tu as trouvé l'affiche américaine du film.
Ouais.
Puis, sur laquelle il y a...
un cosmonaute.
Voilà, la cosmonaute femme en détresse, tu sais, c'est
ça? Non, il y a un cosmonaute qui transporte, tu sais, un cosmonaute, hein, parce que dans l'espace, transporte une femme en détresse.
En détresse, voilà.
Exactement comme on voit dans Forbidden Planet, là, une espèce de femme qui est toute comme évachée, là, puis qui... Mais ça n'a aucun rapport au film.
Oui,
il y a aucun moment dans le film où est-ce qu'il y a un homme qui transporte une femme en détresse. Aucun, tu sais. Il y a un moment où est-ce qu'ils s'endorment tous... Mais à ce que je sache, il n'y a pas...
Il n'y a pas d'histoire de sauver la demoiselle en détresse. Non, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça, demoiselle en détresse.
Non.
C'est vrai. Puis ça, c'est un des mythes de cinéma qui m'énerve le plus.
C'est fou, ouais.
Qui m'énerve le
mais
plus.
Mais c'est dingue, quoi, cette affiche et tout. D'ailleurs, c'est marrant que tu fasses allusion à Forbidden Planet, parce que ce film-là, Icarié...
a des influences.
A tiré des petites influences de ça, puisqu'il y a le robot Patrick qui est presque une copie conforme de Robbie the Robot, Robbie le robot de Planète Interdite.
Mais il s'en moque d'ailleurs de Patrick un petit peu.
Oui,
hein,
ouais,
parce
ouais,
que dans Patrick, c'est comme, c'est comme un jouet. Là.
Ouais. C'est assez drôle. C'est vraiment assez drôle. Non, c'est vraiment... j'ai vraiment eu du plaisir à voir ce film. Quoi. J'aime le look du film, j'aime la photo. J'aime
c'est beau,
plein,
ouais,
plein
la photo était très belle.
La photo est vraiment belle.
Le décor, comment
c'est ce qu'on disait, l'utilisation du décor, tu sais,
ces
enfilades. Ouais, puis cette musique super étrange, cette espèce de musique électronique. Vraiment.
Typique d'un film de science-fiction d'une certaine façon, mais
oui,
bien.
Mais intéressante, quoi. Il y a quelque chose de vraiment intéressant.
Ouais.
Oui, puis ces plans, alors ces enfilades de couloirs, tu sais, avec des lignes, enfin, avec les lignes de fuite et tout, qui rappellent vraiment certaines scènes de 2001. C'est flagrant, là, quand tu vois ça.
Oui, ça fait clairement partie des films que Kubrick avait vus avant de faire 2001. Il s'était tapé tous les films de science-fiction, si je ne me trompe pas, là. Puis
ça
pour moi, lui, il a dû vraiment le trouver de son goût.
Ouais.
Oui, parce que dans Kubrick, c'est un peu aussi la même chose, je dirais, au niveau du décor. Hein.
Je dirais presque même les costumes. Tu sais, les costumes de cosmonautes, justement, là.
Ouais. Je sais.
Il y a peut-être même quelque chose là qui a inspiré Kubrick, tu sais.
Mais je pensais aussi au décor, parce que ce qui m'avait frappé de 2001, c'était vraiment l'esthétique, là, quand ils sont sur la Lune, la station lunaire, où est-ce que les gens sont assis, quand ils sont dans le vaisseau qui est comme une espèce de navette qui les amène sur la Lune, tu sais, et puis avec le truc qui tourne, tu sais.
Il y a
tout ce petit côté-là qui marche bien aussi dans Icarié, cette espèce d'esthétique-là, tu sais, qui est apporté au détail. Donc, visiblement, ils ont utilisé probablement des vrais lieux qui existaient ou ils ont construit dans le studio. Tu me disais que ça a été tourné au studio de Prague. Donc, probablement qu'ils ont construit.
Barondorf, ouais. Donc, oui, c'est des décors qu'on a construits là-bas. Puis, ils n'avaient peut-être pas le budget que les Américains ont eu après pour...
2001.
Pour 2001.
Ouais.
Mais la
maquette, j'étais moins sûre à un moment donné. On la voyait peut-être un petit peu trop. Toujours la même.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
C'était un peu
toujours
la même chose.
C'était quoi, 5 ans plus tard? 2001, c'est 5 ans plus tard. En 5 ans...
Mais ça a révolutionné. 2001, c'est le film qui a révolutionné
la
science-fiction.
Qui a révolutionné les effets spéciaux et tout.
Il y a avant puis après 2001. Ouais. Là, peut-être même plus... 2001 a peut-être même plus révolutionné la science-fiction que Star Wars, là.
Oui, c'est pas... Mais déjà, c'est pas la même époque. Star Wars, c'est 10 ans plus tard, quoi, quasi. Hein.
Oui, je sais, mais ça, au niveau des effets spéciaux, Star Wars était très fort.
Star Wars, ça a été une autre étape. Mais 2001, ça a été un truc
avant,
de fou.
Avant 2001, c'est cheesy, la science-fiction.
Ouais, complètement.
Avant 2001, c'est cheesy, là. C'est comme... Comme dans Icarié, c'est comme genre, ils sont pas trop forcés. Ils se sont dit, bon, navette spatiale, on voit que le gars, il tient sa marionnette, qui a bougé un peu, puis qu'il y a comme des planètes, tu comprends, tu sais. Je te dis ça, mais je trouve que Star Trek était pas pire aussi, dans le style, là.
Puis c'était de la télé, c'est pas la même chose aussi. C'était pas le même médium, c'était de la télé, tu sais.
Ben, pas Icarié, là. Icarié,
c'est cinéma. Icarié, non. En plus, tourner en cinémascope et tout, là, c'est du grand format.
C'est
là.
Ça, mais tu sais, comme toute l'intérieur est super beau, puis la maquette, c'est parce que moi, je pense que c'est juste qu'ils n'avaient pas la conscience que Kubrick avait de rendre ça comme hot, me suis-tu, tu sais? Parce que Kubrick, il était malade.
Ouais, je pense qu'il y a de ça. Puis aussi le fait que, en 5 ans, il y a pu y avoir des progrès aussi fous au niveau technologique. Tu sais, j'ai pas regardé ça en détail, mais...
Je pense une volonté. C'est pas comme la révolution informatique qui a complètement transformé parce qu'on a eu une technologie. Je pense que je pense qu'à la limite, à l'époque d'Orson Welles, il aurait pu faire 2001, là, côte. Parce que je vois pas... qu'est-ce qui aurait pu changer, excepté notre connaissance de, du futur, l'évolution de la pensée du futur. Mais dans le cas de 2001, c'est vraiment... Je pense que les livres étaient peut-être plus avancés, mais ça restait des descriptions. Ben juste, notamment quand tu lis un livre de Arthur C. Clarke aujourd'hui, puis tu sais, mettons Rendez-vous avec Rama, que c'est comme... Il y a un vaisseau spatial qui arrive, puis les humains vont explorer ce vaisseau spatial-là. Tu l'imagines probablement pas comment eux l'imaginaient à l'époque, puis même comment Arthur C. Clarke l'imaginait. Ouais. On l'imagine avec notre pensée moderne de super vaisseau spatial, très bien fait, là, tu sais, comme construit avec comme plein de... je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme quelque chose de gigantesque, c'est tout. Mais non, je pense que c'était vraiment une question qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Mais tu sais, c'était chouette, là, les petits les vaisseaux, les ovnis, mais je sais pas. Juste mon cerveau, il travaille très fort à essayer de trouver si avant 2001, il y avait quelque chose qui était aussi, je sais pas comment dire, mais tu sais, comme crédible, là. T'es comme genre, waouh! Tu sais, il y a une sorte après, t'as Alien qui est comme genre, t'as vraiment l'impression que t'es dans un vaisseau comme cargo, tu sais.
Ouais. Chacun a eu leur. Chacun de ces films, ces grands films, ont eu un impact où on crée une étape, on passait une étape différente.
C'est ça. Mais l'intérieur du vaisseau était très beau dans Icarie. C'est vraiment juste la petite maquette.
Oui, c'est juste les petites maquettes. Ouais, c'est juste les petites maquettes. Mais ça a son charme aussi, finalement. Ça, c'est le petit charme, comment dire.
Papier mâché.
Oui, un peu papier mâché de cette époque-là. Tout comme dans, Forbidden Planet, finalement.
Forbidden Planet. C'était quoi l'autre, là? Dead Star, ça c'était avant 2001, où je me mélange.
Quoi? Dark Star?
Dark Star, non, c'est après ça.
Ça c'était après, c'est dans les années 70.
C'est les années 70, ben oui, je me mélange.
Quoi, le truc de John Carpenter?
Ouais.
Ah, mais là tu parles d'un truc super indie. Là.
Cheesy.
Super over indie, là.
J'ai vu trop de films.
C'est une gang de potes qui ont fait une comédie dans l'espace pour rigoler, là, tu sais, je veux dire.
C'est une comédie? C'est pas une comédie, Dark Star?
Si, ouais, c'est une comédie.
Ben c'est comique, par défaut. Il me semble qu'il y avait un petit côté.
C'est comique malgré tu veux dire. Genre... Très rigolo de le revoir, celui-là. J'ai pas vu depuis tellement longtemps.
Non, c'est parce que j'avais vu comme un moment là, quand on avait commencé à faire le podcast. Donc, comme ça fait un moment qu'on fait le podcast, parce que ça remonte, là. On en est rendu à plus que 50 épisodes, mais.
Mais on a pris notre temps, donc ça fait long.
Ça fait quelques années. Ouais, Dark Star. Non, donc Dark Star, tu as raison, c'est plus années 70, donc c'est après 2001.
Ouais.
Bon, alors, Icarie et ensuite 2001.
Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film-là qu'on aimerait partager?
Non, je pourrais parler plus en détail du jeu des acteurs. C'est difficile quand c'est dans une langue que tu connais pas, ça c'est difficile
C'est vrai que c'est difficile quand c'est dans une autre langue.
Mais
il me semble bon. C'était...
Je les trouvais bons, ouais. Je trouvais qu'il y avait un... J'aimais le choix des acteurs pour leur trait physique, tu sais.
Il y avait des personnalités aussi différentes qui étaient chouettes.
Il y avait des traits intéressants, des gueules, tu sais. Il y avait des belles gueules, tu sais. C'est des visages intéressants, des voix intéressantes, puis comme je te dis, c'est difficile de juger de leur jeu, mais ça avait un flow, puis j'aimais ça, quoi. J'aimais bien ça.
Moi, j'aimerais parler aussi un peu du réalisateur que je connais pas, mais il a l'air d'avoir eu une bonne carrière parce qu'il a quand même réalisé 28 choses, dont des séries télé. Je dis choses parce qu'il y a des séries télé. Il a travaillé de 59 à 96, je crois. 96, qui est peut-être l'année de sa mort. Ah non, il est mort en 2003, donc il y a eu une retraite de 7 ans. Mais tu sens qu'il y a eu une carrière prolifique. Là. Il y a beaucoup de choses qui lui sont associées. Wow. Donc, à nous de pratiquer notre tchèque et puis de découvrir peut-être d'autres de ses films. Parce qu'on ne le connaissait pas, ni toi ni moi, Gingrich.
Non, absolument pas. En tout cas, c'est une belle découverte, vraiment. J'ai beaucoup de plaisir à voir ce film.
Je vois qu'il y a deux.
Puis, comme disait David, notre auditeur, quand il nous avait parlé de ça dans son courriel. C'est vraiment un film qui se laisse vraiment bien voir. C'est marrant, j'essaie de voir s'il y a d'autres films qui ont été adaptés. C'est marrant, c'est le seul dont ils ont fait une version américaine. Il y en a d'autres qui ont été traduits en allemand, ou peut-être qu'il a fait pour les Allemands, je ne sais pas. Mais le seul film qui a été traduit ou pour lequel il y a eu une version américaine, c'est celui-là. C'est curieux quand même.
De ces films, tu veux dire, de tous ces films?
Ouais, c'est ce que je vois en tout cas.
C'est peut-être vraiment un cinéaste local, là. C'est comme le Eric Canuel de la Tchécoslovaquie, là. Je pense que je sais pas, je pense que j'ai De donner un compliment à Eric annuel, probablement. S'il nous écoute, salut Eric.
C'est le seul titre, tu vois, le Voyage to the End of the Universe, c'est le seul titre anglais que je vois sur IMDb. Il y a The Visitors, une série télé. Mais tous les noms d'épisodes sont en tchèque, donc c'est...
Donc, il va vraiment falloir pratiquer notre tchèque.
Ouais, il n'y a plus qu'à faire.
C'est l'occasion.
T'es foutu. Voilà.
S'il y a un auditeur vraiment... qui se lance au tchèque grâce à ce podcast, qu'il me le dise. Nous échangerons sur notre difficulté à apprendre une langue étrangère.
Non, je trouve en plus qu'il y a une montée de la tension qui est intéressante. C'est quand, bah, d'une part, quand il y a cette interruption de la scène de bal, j'aime bien la manière dont c'est amené, la découverte du vaisseau abandonné.
Ah oui, moi, à partir de la scène de bal, là, moi, j'ai adoré tout le reste du film. Mais au début, je l'ai trouvé un peu long, mais peut-être parce que je n'avais pas la patience. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est là où s'enchaînent les événements. Quoi.
Mais qui sont chouettes, qui sont étranges. Ça, qui sont,
après ça, ils sont exposés aux radiations de la planète noire.
Ouais, ils se mettent tous à dormir. Ça, c'est amusant.
Ils se mettent tous à dormir, ouais. Et
ça va bien, en plus, avec mon projet de web-série. J'étais toute excitée. Et puis, il y a tout le dilemme, est-ce qu'on retourne sur la Terre ou pas, tu sais? Puis, il y en a qui disent, non, on continue, on va se réveiller. Mais t'imagines-tu, c'est un petit moment hyper angoissant, là, tu sais, genre, avoir la foi de continuer, tu sais.
Ouais, ouais. Mais c'est ça que j'ai aimé, le
parce
côté positif.
Parce qu'il risque de mourir.
Genre, non, il n'y a pas d'espèce de... Je sais pas, un film aujourd'hui aurait créé une montagne avec ça, tu sais, c'est genre... T'aurais fait un truc énorme avec rien, tu sais. J'aime ce côté, non, on continue, tu sais.
Mais il y a une tension, il y a deux personnages. Il y en a un que lui, il est prêt à...
Appuyer sur le bouton pour retourner. Ouais,
il y a quand même ce petit moment de tension. Là.
Non, puis c'est ça. Puis cette résolution, enfin, pas cette résolution, mais enfin, si, en fait, le conflit avec l'autre qui devient fou, tu sais, qui a été atteint par les radiations, enfin, puis qui devient fou.
Et oui, que t'aimes bien parce qu'à la fin, ils vont le. Il est bienveillant, ils veulent le.
Ouais, c'est ça, ils veulent absolument le guérir. Ils sont là, tu sais, ils essaient de lui parler. Ils leur tirent dessus. Mais eux, ils cherchent pas à le blesser ou quoi, ou à essayer de le tuer. Voilà. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est lui parler,
ben, en même temps,
essayer de le raisonner parce qu'ils ont les capacités de le guérir.
Ouais. Mais en même temps,
je trouve ça intéressant.
Il y a une difficulté à se rendre à lui aussi. Il s'est mis dans un endroit où est-ce que... Puis là, en plus, il détruit tous les trucs de communication. Puis c'est le robot qui se prend tout. Patrick qui se prend tout.
Mais tout ça, c'est, je trouve, vraiment bien fait, quoi. Le cas qui est isolé, il y a une difficulté pour l'atteindre.
Mais c'est ça la bonne science-fiction, en fait. Puis c'est le fun parce que, tu sais, en fait, je pense que ce que tu exprimes, c'est un des trucs qui, je suis 100% d'accord avec toi, c'est aujourd'hui, les science-fiction sont beaucoup basées sur l'action. Tout doit aller vite.
Ouais.
Puis c'est comme si l'action avait comme... Puis ça, je sais que je me répète quand je dis ça, parce que je l'ai déjà dit, mais c'est pas que j'aime pas le film d'action. C'est que le film de science-fiction n'est pas un film d'action. Puis quand que je vois un film comme Star Trek, que j'avais pas aimé, là, le deuxième Into Darkness, c'est parce que, en plus, le personnage de Khan, il est tellement intéressant. C'est un personnage tellement torturé, tellement intéressant. C'est il est génétiquement modifié. C'est un OGM. mais tout ce mythe-là est intéressant. Tout ce backstory-là est intéressant. Puis la majorité du film se passe à une vitesse folle où est-ce que t'as pas l'appréciation de, justement, comme dans Icarier, où est-ce que là, tu sais, t'es plus dans le trailer, à la limite, là, où est-ce que là, tu sens le suspense, le mystère, là, comme, oh mon Dieu, vous allez dormir, est-ce que vous allez vous réveiller? Parce que nous, comme spectateurs, on a peur pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à maîtriser ce fou-là? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir quand ils vont aller sur ce vaisseau spatial-là, qui, au début, on pense que c'est un vaisseau extraterrestre?
Ouais, puis c'est un vrai film d'exploration.
Tu sais, donc, c'est To Boldly Go Where No Man Has Ever Gone Before.
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Oui, je sais, mais ça se prête bien à ça.
Ouais.
Parce que ce film-là, c'est vraiment de l'exploration, tu sais.
C'est ça.
Oh, il y a un truc en détresse, on reçoit un signal en détresse, on va aller voir. Tu sais, on passe près de cette planète noire, qu'est-ce que ça peut être? Oh, il y a des radiations, machin.
Puis,
c'est pas grave, on continue.
Puis en même temps,
on va la trouver, la planète blanche.
Là, je vais faire ma scientifique chiante. Les chances que le vaisseau spatial passe exactement à côté d'un vaisseau qui lance un signal qu'ils sont capables d'entendre et qu'ils sont capables de se rendre, le voir, sont à peu près nulles. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus quand j'écoute toutes les Star Trek, c'est qu'ils sont toujours ils rencontrent toujours quelque chose dans l'espace. Ils sont toujours... Bon, les vieux Star Trek, me semble, sont moins pires parce qu'ils rencontrent des planètes, tu sais. Donc, déjà, quand t'arrives sur une planète puis qu'il se passe quelque chose, c'est comme la planète quand même assez grosse. Même si, tu sais, même s'il y a surtout du vide dans l'espace. Tu comprends ce que je veux dire, ouais. Tu sais? Puis cette coïncidence-là est invraisemblable. Mais bon. C'est moi qui chipote, là, parce que c'est sûr, ça serait plate, hein, un film de science-fiction réaliste, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est dans son vaisseau spatial, puis qui se passe rien, parce qu'il rencontre rien, puis voilà. C'est pas ça le but. Des ouais. histoires.
Oui, en tout cas, belle surprise. Belle surprise. Je sais pas si t'as encore d'autres trucs à dire, mais.
Non, moi, j'ai fait pas mal le tour.
Ouais, moi, j'encourage le monde à voir ce film, ben... si vous l'avez jamais vu. C'est vraiment une petite perle, je dirais. C'est vraiment, vraiment chouette, quoi.
Puis, j'encourage les gens à voir aussi tout ce qui fait. Depuis notre série de films de science-fiction qui sont pas en langue anglaise. Puis, désolé, là, c'est, on a pris beaucoup d'espace entre chaque film parce que. Ben, la vie, hein. Ouais. Mais oui. De part et d'autre, on fait ça bénévolement quand on a le temps, quand on peut.
Mais on aime ça.
On aime ça. On lâche pas parce qu'il y a encore des films de science-fiction à voir. Puis on a encore des amis invités pour parler. Jaser. Puis vous pouvez vous taper tous les podcasts. Ça, c'est intemporel, donc on se dit que
en plus, ouais,
c'est pas perdu. Donc ce que je veux dire, c'est que de regarder des films qui sont pas en langue anglaise, c'est aussi intéressant parce que ça nous amène une autre culture de l'idée de la science-fiction. Puis, c'est fascinant comment il y en a peu de films de science-fiction qui ne sont pas en langue anglaise parce qu'on en a cherché. Là, on en a une liste, comme on dit, qu'on va faire, là, de peut-être 3-4 et tout. Mais le film de science-fiction passe automatiquement, on dirait, par la langue anglaise. Et pourquoi, tu sais? Mm-hmm. On a de la misère à imaginer une science-fiction. Là, je travaille avec une jeune auteure. Et elle me parlait d'une idée de film de science-fiction. J'étais comme, yé, c'est pour moi, on travaillait ça ensemble et tout. Puis elle me dit, ouais, mais je sais pas, je le vois pas comme pas à Montréal, tu sais. Pourquoi? Le futur nous appartient aussi, là. Bon, tu me diras qu'on a fait une galaxie près de chez vous. Il y a aussi eu Projet M puis Temps mort au Québec, là. Mm-hmm. Merci à Éric Piccoli, dont on va sûrement, j'espère, parler un jour, ouais. Parce que c'est aussi des beaux projets, même si c'est pas des films, c'est des web-séries, mais c'est des beaux
ouais,
projets
de science-fiction.
Exactement, tu sais, qui toutes les deux avaient des belles qualités.
Ouais, ouais.
Chacun de leurs barres différentes. Puis, donc, du coup, moi, c'est ça, j'ai trouvé l'exercice intéressant de se plonger dans ces autres cultures-là. Et puis, on va essayer de le faire le plus souvent possible, mais malheureusement, la majorité des films sont en anglais. Et ça nous amène peut-être à notre prochain film, Nick?
Peut-être, oui, d'ailleurs. Oui, c'est pas voilà.
Je t'ai surpris, je t'ai pris ta ligne.
Ouais. Non, mais c'est juste. Ouais, ok, on est là, tu sais. On va partir dans un film d'exploration spatiale qui tourne mal. Puisque...
Oh, ça va. T'en as parlé tantôt en plus.
Ouais, on en a parlé tantôt. On va faire Event Horizon. Ça fait un moment qu'on en parlait, qu'on se disait qu'on allait le faire. Je pense même qu'à l'époque où Olivier était là.
C'était dans la liste parce qu'Olivier aimait bien ça.
Ouais, il avait vachement envie de le faire.
Ouais. D'ailleurs, ça serait chouette si on pouvait. Je ne sais pas si je peux le tirer pour qu'il vienne faire un tour à Montréal pour ça. Je pense
ça serait
pas,
cool.
Hein.
S'il est là, ça serait cool.
Mais on prévoit avoir un invité. Donc, en fait,
cool.
Si on arrive. Mais en fait, c'est
plus
ça.
Plus on est de fous.
un bon invité, un spécialiste de l'horreur. Donc, ça va être le fun. On se réjouit.
C'est ça, on va retourner un peu du côté
de l'anglophone.
Event Horizon, film américain. Des années 90?
90. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein.
Oh, tu ne l'as pas vu?
Non.
Ah, ben ça va être intéressant.
Ça va être une découverte. Ouais. J'étais bien contente quand j'ai vu qu'il choisissait ce film-là parce que je ne l'avais pas vu.
Ça doit être le film que j'aime le plus d'un réalisateur que je n'aime pas.
C'est qui réalise Event Horizon?
C'est. Comment il s'appelle?
L'aimes vraiment pas. Hein?
Paul W. Anderson, si je ne me trompe pas.
Ah oui, tu ne l'aimes pas, lui?
Le gars qui a fait tous les Resident Evil.
Non, c'est.
C'est lui? Oui, c'est lui, non?
Je l'ai. Oui, Paul W.S. Anderson.
Non,
il a fait Resident Evil, il a fait Mortal Kombat.
Ouais, non, en général, il a fait des trucs mauvais, mais.
Dead Race Inferno. Dead Race. Attends, ça, c'était comme scénariste. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça. Alien vs. Predator. Mais plein de grands films. Alors, j'ai bien hâte de voir.
Event Horizon, c'est probablement son film le plus intéressant.
Bon.
Je dis pas ça, mais vraiment, quoi. Je me rappelle avoir aimé ce film.
On verra.
On en reparle dans quelques temps. On va essayer de faire ça dans pas longtemps. Normalement, ça devrait se faire dans deux semaines. Donc on va essayer de respecter ça, ça serait cool. Ça serait chouette de reprendre un rythme comme ça. Moi, je vais être un petit peu plus disponible. Donc,
oui, voilà. Ben oui, c'est ça.
J'avais déjà dit ça la fois passée, je pense. Puis après, il y a d'autres trucs qui sont arrivés. Mais
c'est ça, c'est quand tu n'es pas à Montréal.
Oui, maintenant, je travaille à Montréal. Donc,
Mais puis moi aussi, j'ai plus ce gros contrat-là qui me...
Ouais, moi aussi, je vais avoir des horaires beaucoup plus normaux. Là. Ça ne va plus être des
voyages. Jusqu'à ce qu'on reparte dans un autre délire chacun d'autre bord. Mais on... Ouais, non, on va essayer d'être un petit peu plus régulier là, dans les mois à venir.
En tout cas, voyez Ikari XB1, c'est cool. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire des suggestions, comme l'avait fait David pour ce film. Et pour vous abonner à ce podcast, ben, c'est sur notre site 24quarks.com, sur iTunes également. Vous pouvez nous laisser quelques petites étoiles au passage, c'est toujours très très apprécié. Vous pouvez nous écouter sur Balado Québec, sur Pod Québec, sur RZO Web, nous suivre sur Twitter @24quarks, toujours avec un S. Et puis venez jaser avec nous sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks@gmail.com. Moi, on peut me trouver sur Twitter @steadynick. Toi, t'es sur Facebook.
Ouais, Facebook. Marie-Louise Guerrier-Pie.
La prochaine fois, on se retrouve avec Event Horizon. En attendant, merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt. Bye bye.
Bye.
At 0300 this morning, TDRS picked up an automated navigation beacon broadcasting at 2-minute intervals in Neptune orbit.
This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back.
The Event Horizon is the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.
Where has she been for the last 7 years, Doctor?
That's what we're here to find out. After 7 years in deep space.
There were 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for.
Opening outer door.
It came back, abandoned.
Any crew?
Negative. This place is a tomb.
But it didn't come back alone.
Captain Miller! I've got some problems here!
Has been beyond the boundaries of our universe. Who knows where it's been and what it's brought back with it.
Did you hear that? What is it?
This ship is reacting to us and the reactions are getting stronger.
What are you telling me? That this ship is alive?
I have such wonderful things to show you.
Oh my God!
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.
D'ailleurs, je devrais faire un podcast, c'est comme de... Tu sais, les podcasts que les gens ils font pour aider aux gens à dormir, qui disent des trucs vraiment plates.
Ouais.
Pour avoir mon truc. Là, je dis, tu as entendu parler de ça? T'as déjà... C'est vraiment ça. Parce que d'une voix très calme, la personne a dit... Aujourd'hui, le temps était froid et puis j'ai marché dans la rue et puis là, j'ai vu un petit chien qui tremblait et puis son maître le tenait par la laisse. En rentrant dans l'épicerie, j'ai pris un sac de plastique, mais après ça, j'ai changé d'idée. Il y avait des chips de toutes sortes de couleurs sur le comptoir. Je te jure, encore plus plate que ça. Là. J'ai de la misère à être plate à quel point ils sont plates. Là.
Je vais garder ce bout-là.
Non.
Je vais garder ce bout-là, si. Pour rire.
Tu vas regarder, puis tu vas dire « Lance Marie-Louise dans un nouveau podcast. » Sa vie fascinante.
Ouais.